Les Sanadoris sont en concert dimanche, 17h, à salle des actes de l'hôtel d'Épringles, rue Monge, rue Crébillon, à Dijon. Et BFC Classique ne pouvait pas faire autrement que de sauter sur l'occasion de vous proposer de retrouver l'Ars des Sanadoris, l'album publié par le groupe il y a maintenant quelques mois et que nous avions eu l'occasion de vous présenter en son temps. On est en duplex avec Alain Gervaux. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de ces étranges violons qui précèdent les violons d'orchestre que nous connaissons aujourd'hui commence au XVe siècle?
Oui, alors au XVe, il s'agissait d'instruments un peu différents. En fait, les ensembles étaient surtout constitués de vielles, de rebecs et de la harpe et du luth. Or, il se trouve qu'effectivement, au tournant entre le XVe et le XVIe siècle, il y a une transformation qui s'opère. Il y a la transformation de ces instruments à cordes frottées qui vont déboucher progressivement sur deux familles qui vont se distinguer en arrivant sur le XVIIe siècle, qui sont la famille des viols de gambe et d'un côté et la famille des violons de l'autre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment de naissance du violon finalement ?
Ben absolument. En fait, on peut jamais clairement définir la date, puisque ce sont plein de petits ajouts, de petites transformations qui s'opèrent avec le temps. Donc, on pourrait dire que cette transformation s'opère sur plus ou moins un siècle, qui va de la fin du XVe à la fin du XVIe.
On a eu l'occasion d'évoquer l'histoire des instruments et comment vous avez été amené à emmener un certain nombre de gens luthiers dans votre aventure, Alain Gervaux. Comment vous y êtes-vous pris justement pour emmener tout ce monde dans cette aventure-là de retrouver les instruments et les musiques?
Bah, tout naturellement, en fait, hein, les luthiers que je connaissais, en fait, travaillaient, faisaient des recherches de leur côté depuis un certain moment pour comprendre ce passage, en fait, entre le XVe siècle et le XVIe siècle, entre la vielle et le rebec d'un côté, et les familles de viols de gambe et de violons de l'autre. Donc ces luthiers qui travaillaient un peu dans l'ombre ont évidemment sauté sur l'occasion pour pouvoir créer des instruments, concrétiser donc plusieurs de leurs recherches qui partaient dans un sens ou dans un autre, essayer de rassembler en fait un peu tout ça dans un instrument ou dans plusieurs instruments. Et donc plusieurs luthiers ont travaillé d'ailleurs sur ce projet. Après, au niveau des musiciens, ben, je dirais que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a tous un fantasme, en fait, de la naissance du violon, et puis on sait que, à cette époque, ben, la musique était absolument extraordinaire, la polyphonie avait une espèce de brillant fantastique, et malheureusement, ben, nos instruments, soit modernes, soit baroques, ne conviennent pas tout à fait pour jouer ce répertoire, qui, au départ, il faut bien le dire, est dédié aux chanteurs. Hein. Les musiques que jouaient les premières compagnies de violon étaient des musiques dédiées aux chanteurs, donc avec des paroles, etc.
Mais est-ce qu'on a une idée, monsieur le docteur, de ce qui a amené la disparition de ces instruments-là et est-ce qu'on a une idée aussi de ce qui fait qu'on les a partenus ou qu'on s'en souvient pas, il faut chercher pour les trouver et les restituer?
Bah oui, c'est le progrès en fait. On n'arrête pas le progrès, comme disait mon grand-père. Et donc.
Mais enfin, aujourd'hui, on a des synthétiseurs et on a toujours des violons.
Oui. Oui, mais c'est parce que les violons n'évoluent plus en quelque sorte, c'est-à-dire que ils continuent à évoluer, certains luthiers essaient de leur trouver d'autres formes, mais je dirais que l'évolution, elle se passe plutôt à l'extérieur de la forme, dans le sens où on va tâcher de trouver comment capter et comment transformer ou amplifier les vibrations d'un violon maintenant. Mais au niveau de la facture, en fait, ça n'évolue plus dans le sens où tout le monde considère que la forme idéale du violon, elle est aboutie depuis au moins un siècle, voire plus. tout l'intérêt en fait de la démarche que nous faisons, c'est d'essayer de retrouver les qualités en fait qu'on a perdues en voulant aller vers d'autres qualités plus modernes.
Vous avez parlé de la proximité finalement entre les ensembles vocaux de l'époque et le fait que la musique que jouait, je serais presque tenté de dire des violoneux finalement, leur musique venait de là. En voici un exemple.
Oui, alors c'est Sinetoné. C'est un recueil qui a été publié à la fin du XVIe siècle, en 1588, par un imprimeur de l'époque qui s'appelait Vincenzi à Venise, et donc il publie un premier livre de canzones de divers auteurs, mais qui n'est plus pour chanter, qui est pour sonner, hein, per sonar, comme il dit, con ogni sorte di strumenti, donc avec toutes sortes d'instruments. Un premier recueil, donc, qui sera suivi par d'autres, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir comme la tradition qui était celle des joueurs de violon donc depuis plus de 50 ans, qui était donc de prendre des œuvres vocales et de les jouer avec les instruments. En fait, là, on trouve un imprimeur qui se dit « Ah bah tiens, en fait, si je faisais ça, moi, sous forme d'impression, je pourrais le vendre à des amateurs, à des nobles amateurs, et du coup, ils auraient de la musique directement donc pour leurs instruments. » Et donc, cette chanson, si s'y me tenait tant de rigueur, donc vient de Thomas Créquillon, un célèbre compositeur donc de la première moitié du XVIe siècle. Et voilà, et donc ce Giacomo Vincenzi donc en a fait une version sans les paroles directement pour les instruments, et d'ailleurs légèrement modifié par rapport au texte initial, ce qui tendrait à prouver qu'il s'était entouré de joueurs de violon qui l'ont aidé à remettre ça un petit peu plus sous forme dédiée entièrement au violon.